Radio Okapi. À la présentation du journal Grâce Hamzati.
À la une de l'actualité, plus de 8500 personnes déjà enterrées à Goma depuis l'occupation de la ville par le M23, annonce le ministre de la Santé publique. Dr Roger Kamba a révélé ces chiffres lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias ce jeudi à Kinshasa. Le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite se tient à Kinshasa à partir du mardi prochain. Objectif, parvenir à une couverture sanitaire universelle. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dit accompagner le procureur de la Cour pénale internationale dans le cadre de ses enquêtes sur les crimes commis dans la partie orientale de la RDC. Dans ce journal, notre invité Paul Sapou, le président de cette structure, dresse un tableau sombre de la situation des droits de l'homme au nord et sud. D'abord, cette nouvelle sur la crise dans l'est de la RDC. La réunion ministérielle conjointe de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, prévue ce vendredi à Harare et au Zimbabwe, est reportée sine die. Cette annonce, faite cet après-midi par des médias citant des sources diplomatiques, est confirmée par une source au sein du ministère congolais des Affaires étrangères. Cette réunion ministérielle devait plancher sur les modalités de la mise en œuvre d'un plan de sortie des crises dans l'est de la RDC, en fusionnant les processus des pays de Nairobi et de Luanda. Mais pour l'instant, aucun nouvel agenda n'a été communiqué. Le 24 février dernier, à Nairobi, les chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC avaient déjà esquissé une stratégie proposant un cessez-le-feu immédiat et le déploiement d'une force hybride dans les zones occupées par les rebelles du M23. Une option rejetée par Kinshasa qui privilégie des négociations directes avec Kigali tout en refusant catégoriquement de dialoguer avec les rebelles. À toutes et à tous, bonsoir. Plus de 8500 personnes déjà enterrées depuis l'occupation de Goma et plus de 30 corps se trouvent encore dans les morgues. Le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a livré ces chiffres au cours du briefing de presse co-animé hier avec son collègue de la communication et médias Patrick Muyaya Katembwe. Concernant le nombre des blessés, il affirme que le carnage continue, mais le dernier chiffre que son ministère a pu obtenir est de plus de 5500 blessés. On écoute le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, dans ses propos recueillis par Jordan Blaise Shindan Kambala.
Pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un ganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, où on essaye de savoir quelles sont les informations qu'ils nous donnent. Donc nous essayons de trouver des solutions, déjà pour ne pas vraiment vous dire quelles sont ces équipes qui nous donnent les informations, mais ce sont des équipes du ministère de la Santé, parce qu'on doit protéger leur vie. Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. Alors, en termes donc de chiffres, c'est ça. Plus de 8500 personnes enterrées. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Et ça, c'était avant-hier. Nous avons les derniers chiffres de ce matin de 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour.
Entre-temps, le président du Sénat remobilise la population de Lubumbashi pour apporter son soutien aux FRDC et aux combattants Wazalendo pour barrer la route à l'ennemi. Hier, Jean-Michel Samalukonde a rencontré les différentes couches de la population pour prêcher l'unité, la cohésion et la solidarité nationale. Pour lui, cette guerre imposée à la RDC est purement économique à cause de la convoitise de nos minerais et le risque de la balkanisation pèse sur notre pays. Ses hôtes se sont engagés à s'investir chacun à son niveau pour barrer la route à l'ennemi. À Lubumbashi, Jean Gando.
Cette rencontre a eu lieu au chapiteau érigé pour la circonstance au gouvernorat de province. Le président du Sénat a été à l'écoute de ses interlocuteurs pour avoir leur entendement de la situation qui prévaut dans l'est du pays et solliciter ainsi leur adhésion à la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Pour Samalukonde, il importe que tout le monde soit derrière le commandant suprême des forces armées pour barrer la route aux envahisseurs.
Cette guerre, elle n'est pas faite contre le président Félix Tshisekedi. Elle est faite à toute la République démocratique du Congo, dans le but d'entamer notre souveraineté avec des très grandes menaces de balkanisation. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation, nous tous, de nous tenir derrière lui pour le soutenir et l'accompagner. Lui, le commandant et chef suprême des armées.
Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a, au-delà de son appel à l'unité, plaidé pour que le gouvernement accorde certains carrés miniers aux jeunes, car le manque d'occupation peut les pousser à être à la merci des ennemis de la République. Pour sa part, le président de la jeunesse s'est engagé à mobiliser les jeunes pour leur enrôlement dans l'armée, et au gouverneur de province d'ajouter que tout le monde doit regarder dans la même direction pour défendre la patrie qui est en danger. Et pour cela, il est plus que temps d'éteindre les divisions internes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
De son côté, le gouverneur du Tanganyika appelle la population à se mobiliser contre l'agression rwandaise et à soutenir les forces armées. Christian Kitungwa a lancé cet appel au cours d'une activité tenue hier à Kalemie, en présence des représentants des différentes couches de la population. Le point avec Paul Munanga.
Pour le gouverneur du Tanganyika, il est question d'un réarmement moral des FARDC et des Wazalendo en cette période où la RDC est agressée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Il insiste sur le fait que notre pays restera un et indivisible et que l'unité nationale reste la clé pour surmonter les défis sécuritaires. Christian Kitungwa.
Le Tanganyika, c'est un verrou pour le grand Katanga. Le message pour nous, soutenir nos voyants FARDC, soutenir nos voyants Wazalendo qui se battent jour et nuit pour notre bien.
Pour sa part, le colonel Charles Yav Magita, chargé des services d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC à la 22e brigade, appelle la population au patriotisme et à la vigilance.
Nous voulons que la population soit vigilante. Ouvrez les yeux, nous sommes en guerre. Le pays est attaqué par le Rwandais et il ne faut pas accepter que ces Rwandais viennent vous ravir ce qui vous appartient. Alors soyons tous derrière les chefs de l'État et derrière les forces armées. La population civile doit collaborer. Cette population doit dénoncer la présence de l'ennemi dans leur maison.
Le gouverneur du Tanganyika a en outre exhorté les jeunes à s'enrôler dans l'armée.
Merci à vous, Paulin Munanga. Et dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo a échangé hier à Brazzaville avec le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les deux parties ont échangé sur l'implication éventuelle du président congolais pour mettre fin à la crise dans la partie orientale à travers le dialogue. Pour Mgr Donatien Chiolé, secrétaire général de la CENCO, l'expérience du président Sassou Nguesso dans la résolution de certaines crises en Afrique peut faire progresser le processus entamé par la CENCO et l'ECC. Il est dit dans cet extrait choisi par Blaise Makassi.
Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Séléka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodjo, c'est tous les dimanches que Eden Kodjo venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit. Et vraiment, c'est la sagesse que nous avons tirée ici.
Dans l'actualité, sachez aussi que Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, est arrivé cet après-midi à Beni, dans le Nord Kivu. Au cours de sa visite, il a rencontré les autorités provinciales, le nouveau commandant de la force de la MONUSCO ainsi que les casques bleus déployés dans la région afin d'évaluer de première main l'évolution de la situation. Dans le cadre de cette évaluation, Jean-Pierre Lacroix a été informé de la situation sécuritaire dans les zones où la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO a établi les bases, notamment à Kanyabayonga, Eringeti, Oicha et Maimoya. Il a réitéré l'urgence d'une mise en œuvre rapide de la résolution 2773 qui souligne la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et appelle à la fin de l'offensive du M23 au nord et au sud Kivu. Demain samedi, il se rendra à Entebbe en Ouganda pour rencontrer le personnel de la MONUSCO relocalisé depuis Goma le mois dernier. Nous l'avons dit dans les titres, parvenir à une couverture sanitaire universelle, c'est l'objectif principal poursuivi par le 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite qui aura lieu du 4 au 6 mars prochain ici à Kinshasa. Au cours d'un point de presse tenu hier, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba Moulamba, pense qu'il y a une possibilité d'améliorer notre espérance de vie par la vaccination. On l'écoute au micro de Stanislas Richard Diomi.
Nous vivons le moins longtemps par rapport aux autres Africains. Et quand on regarde pourquoi les Congolais meurent plus tôt, c'est surtout au niveau de la première tranche d'âge de vie. Donc de la grossesse jusqu'à peu près 5 ans. C'est là où la mortalité est très importante. Mais quand on regarde là-dedans pourquoi les enfants meurent, la majorité c'est pour des maladies évitables par la vaccination. Donc cette espérance de vie, nous pouvons l'améliorer si nous améliorons la vaccination de nos petits-enfants. Encore une fois, il faut qu'on arrête avec ce délire contre la vaccination qu'on voit un peu partout. Nous avons tous toujours été vaccinés depuis que nous sommes tout petits. Et on voit que les pays où cette vaccination est correcte, les enfants vivent plus longtemps que nous en Afrique, surtout en RDC. Il faut savoir que l'Afrique est le pire continent en termes d'espérance de vie et la RDC est le pire pays du pire continent. Donc nous avons une possibilité d'améliorer notre espérance de vie et je voudrais vraiment que le message sur ce forum de la vaccination soit porté par vous, les responsables de presse.
Par ailleurs, à Kisangani dans la Tchopo, la sous-coordination provinciale des écoles conventionnées kimbanguistes renforce les capacités des chefs d'établissement du primaire et secondaire de son ressort. Au total, 140 chefs d'établissement et leurs adjoints participent à ces séminaires de 3 jours à partir du jeudi 27 février courant. Il porte sur 3 aspects et consistera également à l'évaluation à mi-parcours des activités planifiées pour l'année scolaire en cours, comme nous l'explique le pasteur Jean-Pierre Ikandikand au micro de Jacques Mokonkole.
Ce renforcement va porter sur 3 aspects importants. D'abord, sur la pédagogie, l'administration, sur le financement. Pour ce séminaire, nous avons prévu les sujets suivants. Il y a le partenariat de l'EDUC, la gestion des frais de fonctionnement et la prime de gratuité, les contrôles physiques et les motifs de suspension de la paie, la mise en disponibilité d'un agent et des services publics de l'État, l'élaboration du rapport annuel du palmarès, la gestion d'une bonne discipline et nous allons faire aussi l'évaluation à mi-parcours des activités qui était prévu au courant de cette année 2024-2025 au sein de la coordination sous-provinciale des SCK pour voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait et comme ça que nous puissions faire un effort pour atteindre les objectifs que nous étions assignés dans les plans d'action de cette année.
C'est ça l'objectif que vous poursuivez?
Oui, l'objectif c'est vraiment de renforcer les capacités des chefs d'établissement de notre juridiction. La finalité c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de notre système éducatif.
19h12 à Kindu, dans la province du Maniema. La province du Maniema qui est d'ailleurs dans les noirs depuis plus de 10 jours à la suite de la grève des agents de Sakima à Kalima. À en croire les directeurs provinciaux de la Société Nationale d'Électricité SNEL Maniema, ces agents réclament le paiement de plusieurs mois de leur salaire. Selon nos sources, depuis leur nomination par le président de la République, tous les responsables de la Sakima sont encore à Kinshasa, ce qui rend difficile le travail à distance. À Kindu, une correspondance de Florence Kizalunga.
Bien que n'y a pas de retard de paiement à Sakima, la SNEL Maniema s'est dit être victime et incapable de servir comme il faut sa clientèle. Édouard Moulamba.
Nous sommes dans le noir, il y a peu de temps. Kalima, les travailleurs ont décrété une grève pour raison de non paiement salaire. Et à cet aspect, la SNEL Maniema est victime pendant que nous nous sommes alimentés par la centrale de Luchurukulu. Nous avons entrepris des démarches au niveau de l'autorité provinciale. Et celle-ci nous a rassuré de son appui par rapport à la solution quant à ça.
Pour le lit de Kindu, le responsable des Sakima doivent s'installer au Maniema pour bien suivre la situation de la société et non gérer à distance cette grande société. Ngongo Kitenge.
Quand nous avons la ville sans électricité, vous savez, il y a beaucoup de dangers. Mais je déplore une chose. Et les DG, et les DGA de la Sakima, ils n'ont jamais été à Kalima. Ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Ils restent à Kinshasa. Je viens de l'apprendre que la direction générale de la SNEL à Kinshasa paie des factures à la direction générale de la Sakima. Et cela chaque mois. Et cet argent n'est pas rétrocédé au niveau de la base base au niveau de la Sakima pour qu'on paye les agents. À l'autorité suprême du pays, s'ils peuvent nous écouter, ces gens-là, pour la province du Maniema, ils ne sont pas bénéfiques.
Sachez que cette question a été au centre d'une rencontre avec le directeur provincial de la SNEL, le Zoli du peuple et les gouverneurs de province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Pendant ce temps, en Ituri, l'eau est devenue une denrée rare au centre commercial des Boulets dans les territoires des Djougou qui a accueilli ces derniers jours plus de 30 000 déplacés. Les quelques puits aménagés d'eau potable ne répondent pas aux besoins des autochtones et de leurs hôtes. Un bidon d'eau se vend aujourd'hui à 250 francs congolais, un montant exorbitant pour ces déplacés qui bénéficient parfois de la générosité de certains habitants pour se procurer de l'eau. Reportage de Isaac Raymond.
Les centres commerciaux de Boulets hébergent plus de 100 000 personnes composées des autochtones, des marchands et des clients qui fréquentent les marchés communautaires hebdomadaires, des déplacés venus du groupement de Djaïba et ceux du site de la plaine des Savo qui viennent chaque jour à Boulets Centre. Pour se procurer de l'eau, ils sont obligés de passer toute une journée. Parfois, les eaux tarissent à cause de la forte demande. Les sources non aménagées qui servent pour les travaux des ménages à la périphérie de cette agglomération sont inaccessibles à cause de l'insécurité, ce qui augmente la souffrance de la population, comme l'a dit le coordonnateur de la société civile locale, Eric Lodjunga.
Avec l'augmentation et surpeuplement, tant de familles et d'accueil, voulait asseoir aussi avec ces autochtones. Vraiment, il y a l'insuffisance des sources d'eau potable.
Pire encore, pour les déplacés de guerre qui n'ont pas de moyens pour se procurer de l'eau, dont un bidon de 20 litres est passé de 150 francs à 250 francs congolais, à moins de bénéficier de la compassion de certains habitants pour avoir juste un petit bidon d'eau à boire en famille.
Ils ont la difficulté d'aller puiser, nous allons avec nos femmes pour l'aider là-bas. Si on a des bidons, nous donnons l'unique pour eux et l'unique pour nous. Ils n'ont pas des moyens, ils n'ont pas l'argent.
Pour eux, le rétablissement de la paix dans les territoires des Djougou par le gouvernement constitue une panacée à toutes leurs souffrances. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Fonds monétaire international FMI décaisse 101 millions de dollars pour répondre aux besoins financiers de Madagascar. Ces versements étaient officialisés jeudi après plusieurs mois de retard, les autorités malgaches n'ayant pas rempli à temps les conditions exigées par les bailleurs. Au total, la Grande Île pourra accéder à plus de 650 millions de dollars de financement d'ici à 2027, à condition de poursuivre les réformes pour équilibrer son budget.
L'invité.
Violation des droits de l'homme dans la partie est de la RDC. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dit avoir bien documenté le procureur de la Cour pénale internationale dans le cadre de ses enquêtes et qu'il va davantage l'accompagner pour que ces violations ne restent pas impunies sur le plan judiciaire. Une stratégie de lobbying des activistes des droits de l'homme a été déployée sous la conduite de cette institution d'appui à la démocratie dans des conditions de travail difficiles, selon le président de la dite structure. Paul Msapu Mukulu dresse ainsi un tableau sombre de la situation des droits de l'homme au nord et au sud Kivu. Il répond aux questions de Jeff Ngoy.
Paul Sapou, bonjour.
Bonjour.
Quel monitoring faites-vous de la situation des droits de l'homme dans l'Est?
C'est vrai que nous avons des défenseurs des droits de l'homme, non seulement ceux qui sont au service de la Commission nationale des droits de l'homme, dans nos bureaux de représentation, mais qui sont dans d'autres sphères où nous avons établi une stratégie de collaboration, de travail en synergie. Il y a ce que nous déplorons actuellement, des violations massives des droits de l'homme, des massacre de la population, atteinte à la vie, au mouvement, aux libertés fondamentales et même à une catastrophe humanitaire avec tout ce que cela comporte, notamment les déplacements forcés et aujourd'hui l'enrôlement forcé des enfants. Nous avons tous ces acteurs de la société civile et ceux de la CNDH qui travaillent difficilement puisqu'ils ne peuvent pas se rendre à leurs offices pour y travailler tranquillement et mener des actions de monitoring habituellement autorisées dans leur déploiement. Il n'y a pas seulement que ces acteurs de la société civile, ces représentants de la CNDH dans le nord et sud Kivu, il y a aussi des institutions publiques et même les institutions qui représentent la MONUSCO qui sont en difficulté de faire leur travail à cause de cette situation déplorable. Voilà la situation générale. Donc nous avons des personnes qui continuent dans des conditions difficiles à faire le monitoring de toutes ces situations, mais en même temps nous veillons à ce qu'ils soient protégés, qu'ils se protègent eux-mêmes, et nous avons d'autres notre source de renseignement aussi à travers ceux qui sont dans les provinces voisines.
Vous venez de clôturer l'atelier stratégique de la CNDH sur la situation des droits de l'homme. À quoi a servi concrètement cet atelier? Quelles sont les résolutions qui ont été prises?
Eh bien, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de résolutions, de plis stratégiques. Pourquoi cet atelier en quelque sorte? C'est sur demande des institutions nationales de droits de l'homme, des institutions sœurs à la CNDH de la RDC, pour venir évaluer avec nous la situation qui prévaut dans la partie est de notre pays. Comme nous, il y a eu le Zimbabwe, le représentant du Burundi, de la Zambie, du Kenya et même Madagascar. Et nous avons ensemble mis en place un plan opérationnel de mobilisation. C'est ce qui ressort et occupation du terrain au niveau national et au niveau régional, sous-régional en Afrique et pourquoi pas ailleurs. Ce qui est sorti en termes de recommandations qui ont été publiées, puisque je vous ai dit qu'il y a d'autres recommandations beaucoup plus stratégiques.
Les recommandations qui feront tache d'huile, comme vous l'aviez annoncé.
Absolument, absolument, puisque les défenseurs des droits de l'homme qui sont dans la CNDH ont pris la décision d'être partout où l'on parle de la RDC par rapport à cette situation de violation massive des droits de l'homme. Nous avons entre autres pris la recommandation de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile de la RDC, toutes tendances confondues. Nous avons pris comme recommandation la cessation immédiate des hostilités.
Quelle garantie vous donnez que tout ce que vous venez de dire ne va pas souffrir d'exécution?
Oui, la garantie est là. Nous, les INDH, on agit. On fait bouger les décisions à prendre. Ce que peut-être beaucoup ignorent, le succès diplomatique que certains présentent. Un travail de fond a été fait. Et moi, personnellement, connaissant bien ce qui se passe à Genève, à New York, j'étais dans le couloir, dans les enceintes, avant et même après le passage des officiels. Notre discours, on les connaît et il porte des fruits, puisque nous avons dit Genève. Le narratif n'est pas sur les effets des négociations politiques qui sont de la compétence d'un autre organe de l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité à New York. Tout le temps, je me suis rendu à Genève pour dire il faut un bon narratif.
Le procureur de la CPI que vous avez reçu, je crois,
oui,
a lancé un appel à témoins sur des enquêtes concernant les violations graves des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Quel est l'apport de la CNDH à ces enquêtes?
Eh bien, c'était clair. Pour des raisons stratégiques, je ne vous en dirai pas long. Aujourd'hui, le procureur Kahn arrive, que je connais très bien, compte sur la CNDH pour le travail de documentation, ce dont il a besoin, et parce que même la consolidation de ce qu'il a, il a déjà beaucoup d'informations. Et pour cela, nous avons pris la résolution d'accompagner dans la documentation son travail. Et nous le faisons déjà sur le front judiciaire.
Je vous remercie.
Notre invité, Paul Nsapou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, est interrogé par Jeff Ngoy. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Gisèle Cage et mis en onde par Polydor Basunga. Merci pour votre fidélité.